Chapitre 2. Revivre l'enfer d'une scène ad vitam aeternam, en traversant la rue, à la boulangerie, la nuit, dans son sommeil. Une scène qui se dessinait avec une précision encore plus diabolique quand on baissait les paupières pour la fuir. Cet enfer portait un nom, syndrome de stress post-traumatique ou SSPT. On pouvait le prendre de plein fouet, même 4 ans après le drame, même en flic aguerri aux affaires les plus sordides. Petite parenthèse, j'ai vu dans votre dossier médical que vous aviez été traité à la doxycycline, il y a 2 ans, pour lutter contre la variante d'une maladie à prion dont je n'avais jamais entendu parler, le choroba. En avez-vous conservé des séquelles ? Nicolas Bélanger était assis face au docteur Thierry Hébert au service de psychiatrie adulte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement. Il crispa ses 2 mains sur ses genoux. L'affaire autour du choroba avait sans doute été l'une des plus sinistres et éprouvantes de sa carrière. Aucune. On s'y est pris à temps. La maladie n'avait pas encore pu se développer. Parfait. Bon, revenons-en à notre programme. Je vous réexplique comment fonctionne un souvenir. Nicolas participait à une étude appelée France Mémoire Vive, destinée en priorité aux victimes des attentats de Paris et de Nice, touchées par des SSPT et toutes volontaires. Certes, son traumatisme à lui était différent. Il remontait à 2013 et n'avait rien à voir avec les attaques islamistes. Mais le calvaire qu'il vivait au fond de sa tête et les tentatives vaines pour l'atténuer, hypnose, anxiolytique, cocaïne, justifiait sa place dans le protocole. Un souvenir n'est pas figé dans le cerveau. Chaque fois qu'il est ramené à la conscience, il se transforme. Par exemple, une situation vous évoque un souvenir de votre enfance, lorsque vous étiez gamin sur une plage. Dans ce souvenir, vous êtes vêtu d'un maillot de bain vert, alors qu'en réalité, ce maillot de bain était bleu. Le cerveau a horreur du vide et comble en permanence pour que le souvenir puisse se formuler de façon logique. C'est cette nouvelle version, celle avec le maillot de bain vert, qui va être réenregistrée dans la mémoire à long terme jusqu'à la fois suivante. Contrairement aux idées reçues, plus on se remémore un souvenir, plus il se modifie et plus on s'éloigne de la vérité. Nicolas fixait la lettre ouverte devant lui, écrite dans la pièce d'à côté, et qui retranscrivait ce mal inopérable dont il souffrait, celui du pire souvenir d'une vie. Chaque phrase posée sur le papier avait été une lacération. Son croque-mitaine l'attendait là, sur ce rectangle blanc. Le souvenir est composé d'une partie sensorielle, son, image, odeur, et d'une partie émotionnelle. C'est cette dernière partie qui génère le stress et les cauchemars. Ce médicament que vous avez avalé il y a maintenant 1 heure, le Dumeronol, va empêcher la charge émotionnelle de se reconsolider lors de l'évocation et donc du réenregistrement du souvenir traumatisant. Le Dumeronol est normalement un bêta-bloquant réservé aux hypertendus ou aux grands migraineux. Il est possible que vous souffriez d'effets secondaires assez significatifs. Des insomnies, des palpitations, des tremblements, mais aussi des épisodes d'angoisse assez brefs. Aussi, il serait préférable que vous évitiez les endroits en rapport avec votre trauma, lieux sombres, caves ou souterrains en ce qui vous concerne. Tout est clair ? Pas tout à fait. Je ne veux pas tout oublier. Ça peut vous sembler paradoxal, mais je veux me rappeler ce qui s'est passé. Je veux garder ça au fond de moi. Je ne veux pas oublier les circonstances de la mort de Camille. Vous ne les oublierez pas. Comme je vous l'ai dit, vous en conserverez les images, les sons, les odeurs. Mais vous vous détacherez des émotions qui y sont reliées au fil de nos séances hebdomadaires. Ce sera comme appuyer sur une dent malade, mais dépourvue de nerfs. Camille n'envahira plus votre vie de manière intempestive. Cette impression que vous avez de sa présence trop pesante, pareille à un fantôme, va disparaître progressivement. Dès que vous vous sentirez prêt, vous pourrez me lire votre lettre. C'était le prix à payer pour guérir. Accepter qu'on trafique sa mémoire, qu'on joue avec ses souvenirs, ouvrir le coffre de ses émotions les plus intimes et les livrer à un inconnu. Nicolas trouvait cette invasion de son esprit effrayante, mais avait-il le choix? Il s'empara de la feuille. Il avait fallu rédiger au présent et à la première personne, revivre et prendre de plein fouet avec des mots choisis l'horreur de cette fin novembre 2013. C'est moi qui avance en tête cette nuit-là. Je descends des marches qui me mènent sous terre dans l'obscurité, puis je progresse dans des carrières. Il y a des statues sculptées dans la pierre, des écritures probablement laissées par les soldats allemands de la Seconde Guerre. Tout ça est terriblement sinistre, mais je m'enfonce dans l'obscurité toujours plus avec ma seule lampe. Puis les couloirs se font plus étroits, barré par des éboulements. Je dois avancer à genoux pour circuler avant d'atterrir dans une grande salle noire d'où je vois plus loin des petites flammes de bougies. J'entends des bruits de pierre qui roulent derrière moi. C'est Franck Charcot, mon collègue, qui m'a rejoint. Son visage est fermé, sombre, et au moment où j'écris cette lettre, j'en vois chaque trait distinctement, comme s'il était là, juste en face de moi. C'est sans doute ce qui reste le plus difficile à supporter dans ma tête, ce réalisme. Charcot m'ordonne de rester sur place et me double. Je le suis. Il ne veut pas me laisser entrer dans la salle, mais je force le passage. Nicolas leva ses yeux embués de larmes vers le psychiatre. Des trémolos encombraient sa voix. « Excusez-moi. » Je ne suis pas du genre à pleurer. C'est normal d'être affecté, sinon vous n'auriez rien à faire ici. Néanmoins, il est primordial que vous alliez au bout de votre lettre. Le flic prit une longue inspiration. Thierry Hébert parlait d'une voix rassurante, et en aucun cas Bélanger ne se serait imaginé un jour face à un psy. Mais hors de question de rebrousser chemin. Il ne voulait plus connaître l'enfer de la drogue ou de l'alcool, les nuits à vomir, à s'arracher les cheveux, à trembler, recroquevillé au sol. Ce programme, c'était sa dernière chance. Je discerne un grand drap blanc, suspendu et éclairé par derrière. On dirait l'aile d'un oiseau géant. J'y vois l'ombre chinoise d'un corps crucifié, les bras écartés, flottant à 1 mètre du sol. Je sais que c'est elle. Je sais que c'est Camille, et c'est le monde qui s'effondre. Je contourne le drap. Camille me fixe, les yeux grands ouverts. Sa poitrine est béante. On lui a fait du mal. C'est cette image-là qui revient sans cesse. Ce regard qu'elle m'adresse, cette plaie noire pareille à un gouffre qui m'aspire, et m'aspire encore. Nicolas jeta sa lettre sur le bureau. Le papier lui brûlait les mains. 4 ans, et il n'y arrivait toujours pas. Comment l'évocation d'un souvenir pouvait-elle vous détruire, provoquer de telles suées et tremblements? Cette lettre, il allait devoir la relire à chaque séance pendant 8 semaines, après l'ingestion du duméronol. Un long chemin de croix. Le psychiatre prit quelques notes, lui demanda de la rapporter à chacune de leurs rencontres. « Conservez-la près de vous, dans un tiroir, par exemple. C'est bien que vous y pensiez, que vous soyez conscient de sa présence proche de vous, mais ne la relisez pas en dehors d'ici, c'est préférable. On se revoit dans 1 semaine. » L'entretien était terminé. Selon lui, il fallait au moins 2 ou 3 séances pour que les effets bénéfiques de la thérapie commencent à se faire sentir. Nicolas sortit de la salle la tête lourde, presque douloureuse. Son regard accrocha alors le visage d'une femme, la trentaine, assise dans la salle d'attente. Elle tenait son sac à main sur ses genoux, le dos droit, et elle écarquilla les yeux lorsqu'elle le vit. Nicolas voulut s'arrêter, mais le docteur Hébert était dans son dos. La femme se leva et lui lâcha juste au moment où ils se croisèrent. « S'il vous plaît, ne dites rien. C'est très intime et personne n'est au courant. » Elle entra d'un pas vif dans la pièce d'où il venait de sortir. Nicolas n'en revenait pas. Perturbé et pensif, il déploya son parapluie et descendit à pied le boulevard de l'hôpital. Il marchait vite pour décompresser, oublier la séance et sa carapace qui s'était fracturée devant le spécialiste. Un œil sur sa montre. 16 heures. Charcot lui avait demandé de passer à la brigade sans davantage de précision. Il alla attraper le métro à la gare d'Austerlitz. Avec ses averses ininterrompues, Paris était aussi gris que le ciel. Il remonta vers le nord, jusqu'à la porte de Clichy, en direction des Batignolles, à 5 minutes à pied de la station. Le quartier abritait le nouveau fief de la police judiciaire parisienne. Des milliers de flics déversaient au lever du soleil dans son quadrillage de rues populaires et multiethniques. Adieu le mythique 36 quai des Orfèvres et ses bureaux exigus, si peu pratiques. Nicolas ne le disait à personne, mais il préférait les nouveaux bâtiments. Ses ascenseurs évitaient de se farcir les 148 marches matin et soir. Et puis, les locaux, l'organisation des services, étaient plus fonctionnels. Mais on ne déracinait pas sans peine les flics du quai des Orfèvres, surtout les plus anciens, fabriqués dans le même moule que Charcot. Alors, pour garder la mythologie, le bastion, ultra-moderne et sécurisé, avec ses faux airs de centre hospitalier, portait lui aussi le numéro 36. 36 rue du Bastion. Nicolas regrettait néanmoins la vue sur le pont Neuf et la Seine, les Halles pas loin, et ce que Paris offrait de mieux en termes de bars, de restaurants et de diversité. À la place, des grues, des bâtiments en chantier, un quartier en mutation et le futur palais de justice, deuxième plus haut édifice de Paris après la tour Montparnasse. Colosse de verre et d'acier, avec un accès souterrain direct au bastion. L'entrée des flics s'opérait sur la droite du bâtiment, par un tourniquet sécurisé dont on déclenchait la rotation avec un badge tricolore à puce. Sur le chemin, Nicolas avait remarqué, depuis une centaine de mètres, un homme piétinant nerveusement sous la pluie, le nez rivé sur sa montre. À 2 reprises, l'individu, la cinquantaine et trempé de la tête aux pieds, était parti vers l'entrée principale avant d'opérer un demi-tour et de se repositionner à son point de départ sur le trottoir d'en face à côté d'un grand chantier désert. Nicolas s'approcha. « Vous cherchez quelque chose ?» L'homme s'éloigna d'abord sans lui répondre, puis s'arrêta et revint vers lui. « Vous êtes policier ?»«
Capitaine à la brigade criminelle. »
À nouveau la montre.
Une minute. Encore une petite minute. Il a dit à 17h02, pas avant.
Vous êtes devant un bâtiment de la police nationale. Ou vous m'expliquez la raison de votre présence ici, ou vous partez.
L'homme roulait les yeux. Attendait-il quelqu'un? Il affichait une nervosité suspecte. Quand il ouvrit subitement la fermeture de son blouson et glissa la main à l'intérieur, le flic lui attrapa le poignet et le poussa contre une grille. « Oh, doucement, c'est juste... » Le type sortit une enveloppe beige fermée. « une lettre à remettre à la police. »«
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle contient ?»«
Je n'en sais rien. Prenez-la et laissez-moi partir. Je vous en prie, c'est une question de vie ou de mort. »
Il n'avait pas l'air de plaisanter. Son corps était tendu, ses mâchoires si crispées qu'elles semblaient vissées l'une à l'autre. Ses mains tremblaient.
« Aidez-moi, aidez-moi, je vous en prie. Je suis sûr qu'il est là, et qu'il me surveille. »
Ses yeux exorbités semblaient empreints d'une brutale folie. Il avait murmuré ses phrases, apeuré à l'idée qu'on l'entende. Nicolas ne toucha pas à l'enveloppe. Il demanda à l'homme d'écarter les bras et opéra une rapide palpation.
« Venez avec moi, et allons éclaircir ça à l'intérieur. »«
Non, s'il vous plaît. » « Prenez la lettre et laissez-moi. »
Nicolas le tenait par l'épaule d'une poigne ferme. Véritable bloc de nerfs, l'homme s'arquait, et il s'agitait au point que Nicolas dut renforcer sa prise. L'individu poussa un cri. Soudain, le corps se déroba sous sa main. L'homme s'écroula sur le bitume trempé et se recroquevilla, le visage déformé, la bouche grande ouverte à la recherche d'air. Des veines saillaient sur son cou, son front, et plus un son ne sortait de sa gorge. Ses yeux se gorgèrent de sang.
et Nicolas crut qu'ils allaient sortir de leurs orbites. L'enveloppe tomba dans l'eau. Le policier alerta la sécurité d'un cri. Deux flics accoururent, ainsi que du personnel qui avait assisté à la scène de l'intérieur du bâtiment. « Appelez une ambulance, vite !» Le policier s'agenouilla et essaya de basculer l'homme sur le dos en vain. L'individu était un pavé de souffrance. Ses doigts rétractés tentaient d'agripper les visages au-dessus de lui. Le sang se répandait dans ses globes oculaires. « Bon sang, quelqu'un sait ce qu'il faut faire ?» cria Nicolas. Dans un élan de panique, on tenta de le placer sur le côté pour qu'il puisse reprendre son souffle. Sa gorge émit un curieux gargouillement, puis il cessa de respirer. Son corps se détendit. Quelques minutes plus tard, en dépit des décharges du défibrillateur et des tentatives de réanimation, il était mort.